chers auditeurs de Radio Grand-Ciel, bienvenue dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne. J'ai le très grand plaisir de souhaiter la bienvenue aujourd'hui dans notre studio à Hervé Pinoteau, historien et spécialiste reconnu de la science héraldique. Il est également très grand connaisseur de l'étude de la symbolique de l'État français à travers ses divers régimes. Et il a publié de très nombreux ouvrages sur l'héraldique capétienne et la symbolique royale française. Et nous l'avons invité parce qu'il vient de publier en 2008 un livre consacré à Notre-Dame de Chartres et de France, Le voile de la Vierge et autres merveilles, édition François-Xavier de Guibert. Bonjour monsieur Hervé Pinoteau, bienvenue.
Mais bonjour madame, je suis ravi d'être à Chartres.
Et nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Alors vous avez analysé plus d'une fois le décor de la cathédrale de Chartres. Vous en êtes un grand connaisseur et je crois que vous pouvez nous livrer aujourd'hui le résultat, le dernier résultat de vos découvertes qui sont importantes. Et j'ai placé notre émission aujourd'hui sous le vocable Notre-Dame de Chartres et la France, très chrétienne et royale. Le vitrail de Notre-Dame de la Belle Verrière et sa couronne impériale, j'insiste là-dessus, et le vitrail de Charlemagne, et nous parlerons du voile de la Vierge, relique insigne qui se trouve dans la cathédrale depuis le IXe siècle. Alors, Notre-Dame de la Belle Verrière, c'est un vitrail que vous connaissez très bien.
Oui, enfin, vous savez, il y a de nombreuses personnes qui se sont occupées de ce vitrail, qui est un des plus anciens de notre histoire, et même de tous les vitraux qui existent au monde, puisqu'il est quand même du XIIe. Et c'est un vitrail qui est vraiment, d'abord, il n'est pas à la place d'origine, puisque vous savez que la cathédrale a eu beaucoup de mésaventures, et même jusqu'au XIXe siècle, puisqu'elle a flambé encore au XIXe siècle. Il y a un tableau au musée qui montre cette chose épouvantable, mais elle est à l'heure actuelle dans les hauteurs du côté sud, et dans le chœur, et elle est à une certaine hauteur et elle est à mon avis pas très visible. Elle a été d'ailleurs très bien restaurée il y a peu de temps, et je dois dire que elle ne mérite pas, comment dirais-je, sa place. Mais enfin, autrefois, c'était visiblement le vitrail important d'une cathédrale précédente au XIIe siècle, et elle était dans l'axe de la cathédrale. L'axe de la cathédrale est ponctué, si j'ose dire, par deux représentations extraordinaires de la Vierge sur la façade. Façade occidentale, le vitrail central et le sommet d'une Vierge à l'enfant qui est vraiment très intéressante avec une couronne archaïque, et de l'autre côté alors une Vierge du XIIIe siècle qui d'ailleurs elle a aussi avait une Vierge à l'enfant comme par hasard, et qui a une couronne d'ailleurs elle aussi qui était considérée comme impériale dans la France ancienne. D'où ça, il y a des raisons à ça et on l'expliquera progressivement.
Donc Notre-Dame de Belle-Verrière est normalement dans les ouvrages datés autour de 1180, donc la deuxième partie du XIIe siècle. Or, vous pourriez peut-être démontrer, selon vos recherches, que l'on pourrait dater cette verrière dans la première moitié du XIIe siècle.
La question est, c'est que, il faut le dire les choses, si je m'intéresse à ces questions-là et si j'ai beaucoup publié sur les questions de la symbolique, vis-à-vis des érudits patentés, diplômés, officiels, etc., je ne suis qu'un simple amateur. Mais c'est un amateur qui a beaucoup réfléchi sur ces questions et qui est particulièrement orienté autour de la symbolique, et donc l'héraldique, les insignes du pouvoir. Et ce qui fait que là, nous avons dans ce vitrail des motifs d'inquiétude quand on nous dit, par exemple, que le vitrail, pour une certaine teinte de bleu ou des traits noirs qui définissent des ombres, nous font aller vers 1180. Alors, je pars, j'ai un autre raisonnement, et je crois qu'il n'est pas si mauvais que ça, parce que il y a peu d'années, dans le bulletin monumental, il y a eu un numéro vraiment consacré aux vitraux de Chartres, et rédigé par des trois dames très savantes, et je m'incline poitrine devant leur science, mais il y en a une quand même qui dit Hervé Pinoteau a quand même dit que c'était pas ça la date de la date de ce vitrail. Quant à moi, je pense que ce vitrail a été fait bien avant. D'ailleurs, s'il y avait autrefois des gens qui disaient qu'il avait été fait bien avant, pas pour des questions de justement de comment dirais-je de teinte de bleu ou de style ou même je ne sais quoi, mais il y a des gens moi je crois que ça ne vaut pas grand chose parce que le vitrail a été fait par quelqu'un qui s'intéressait tout particulièrement à la question du voile de la Vierge, et si on identifie la couronne, on en reparlera, que porte la Vierge, à ce moment-là on s'aperçoit que ça ne peut être que bien avant, et moi c'est peut-être une certaine insolence, je dis que c'est après 1137, voilà.
Je pense que vos recherches vont dans le sens des recherches qu'ont menées d'autres historiens, qui pourraient un jour peut-être prouver que les vitraux de la cathédrale de Chartres sont sans doute plus anciens encore qu'on ne le soupçonne ou qu'on ne les présente actuellement. Donc vos recherches vont dans le bon sens. Alors, concentrons-nous effectivement sur cette couronne.
Déjà, on passe sur la couronne.
Ah bah oui, déjà, on passe à la...
Moi, j'aime beaucoup les couronnes. Enfin, les insignes du pouvoir, pour moi, sont ce sont des choses capitales. Et je dois dire que je me suis attaché à ça. C'est de l'insigniologie, parce que vous savez, il faut parler un petit peu... Il faut bien montrer toutes ces sciences auxiliaires de l'histoire, comme l'héraldique, la sigillographie, la vexillologie. Moi, j'aime beaucoup la vexillologie. J'ai fondé la Société française de vexillologie. C'est la science des drapeaux. Mais il y a aussi, par exemple, la phaléristique.
C'est moins connu, c'est une science effectivement plus hermétique.
La phaléristique, effectivement, c'est la science des décorations. Alors, il est évident que les gens tout de suite ne comprennent pas, mais je dois dire que ce sont des sciences auxiliaires de l'histoire. Voilà.
Qui nous aident à mieux comprendre l'iconographie dans les vitraux, c'est très important. On a peut-être négligé ce côté-là.
Oui. Mais dans un colloque international d'héraldique qui a eu lieu à Bruxelles il y a au moins 20 ans, j'ai terminé un discours que j'avais fait en disant qu'après tout, il fallait, pour faire de la bonne héraldique, il fallait quand même connaître l'histoire, et donc que l'histoire était une excellente science auxiliaire de l'héraldique. Voilà.
Voilà, donc cette couronne, qu'est-ce qu'elle a de particulier?
Bon, eh bien, il est évident que au XIIe siècle, quand on connaît les sceaux, bien sûr, et puis quand on connaît, au fond, les couronnes, les deux couronnes, à mon avis, les trois couronnes qui ont été faites, à mon avis, au XIIe siècle, une sans doute par par suggère, peut-être un légèrement avant, c'est de la couronne qui était au trésor de Saint-Denis, la couronne donc dite de la Sainte Couronne ou la couronne de Saint-Louis. Il y a des gens qui contestent mes idées, mais enfin, je crois que je m'y cramponne assez bien. Et puis, vous avez la couronne du roi et de la reine. Toutes ces couronnes du XIIe siècle montrent des couronnes qui ont des fleurs de lys.
Très bien, on va en parler après une petite pause musicale. Après ce réponse attribuée à Robert le Pieux, qui est mort en 1031, qui était fils aîné de Hugues Capet, c'était O Constantia, interprété par l'ensemble Venance Fortunate, qui a consacré un disque au chant sacré au temps des premiers Capétiens. Nous voilà à nouveau avec notre invité d'aujourd'hui, Hervé Pinoteau, historien et héraldiste, et nous parlions de la couronne impériale que l'on voit sur le vitrail de Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de la Belle Verrière.
Oui, c'est une couronne qui n'a pas de fleur de lys, justement. Et alors, ce sont des espèces de, comment dirais-je, on dirait trois, c'est pas des bouquets de perles ou de pierres, ça peut arriver à cette époque-là, d'ailleurs, du temps des Carolingiens, c'était à la mode byzantine, ça devait être comme ça, mais c'est simplement trois genres de pétales d'or, c'est un signe trifide, qui est relatif d'ailleurs à la Sainte Trinité, c'est évident. Alors, c'est donc antérieur à comment dirais-je, à la floraison des fleurs de lys, qui sont déjà dans l'intellect des gens des Carolingiens, mais là vraiment c'est quelque chose de très archaïque, et qui plus est, c'est une couronne qui n'avait pas d'utilité en France, étant donné que les couronnes c'était des diadèmes avec des fleurs de lys et qui étaient comblées par une coiffe qui était en particulier dès la fin du XIIe siècle avec une coiffe conique très importante, parce que pendant la suite des temps on dira que la couronne de royale qui couronnait le roi à Reims était une couronne avec une tiare à l'intérieur, une tiare. Là, c'est une couronne avec une arche. Et c'est une couronne typiquement carolingienne qu'on trouve, on en trouve des modèles, en particulier dans ce qu'on appelle le psautier du Trec, qui est un psautier avec des dessins absolument extraordinaires. Et d'ailleurs, l'arche est très importante dans le psautier du Trec, parce que on voit par exemple des anges qui apportent la couronne au roi en tenant la couronne par l'arche, justement en question. C'est une couronne donc archaïque et elle est impériale, c'est-à-dire que à travers les siècles, les couronnes des empereurs romains, c'est-à-dire des empereurs allemands, étaient des couronnes avec arche, et alors qu'en France il n'y avait pas d'arche. On a commencé à mettre des arches, en particulier en héraldique, et dans la réalité, pour les petites couronnes que le roi recevait en la sortie de la cathédrale de Reims pour aller vers le festin, on trouve ça exactement l'extrême fin du XVe siècle, disons 1500, et on met des arches. Parce que tout le monde, en Angleterre et en Allemagne, se met des arches, il n'y a pas de raison que le roi de France ne mette pas des arches. Il y a toujours il y a des inflations, comment dirais-je, qui se font en fonction de ce que font les amis d'à côté, voilà, les amis ou les ennemis. Donc, c'est une couronne impériale. Or, dans les grandes chroniques de France, faites par le moine Primat de Saint-Denis, nous disent que Charles le Chauve a donné sa couronne au trésor de Saint-Denis. Charles le Chauve était abbé laïque de Saint-Denis et il s'est fait enterrer à Saint-Denis. Or, il a donné, dit le moine Primat, la fin du règne de Saint-Louis, il en savait certainement beaucoup plus que nous, qui vivons au XXIe siècle. Donc, on peut très bien concevoir que le roi, l'empereur, parce qu'il a été empereur, Charles le Chauve, il a laissé sa couronne impériale à Saint-Denis. Et cette couronne est impériale. C'est très intéressant parce que en 1340, les Anglais nous font la guerre. Philippe VI de Valois a besoin d'argent et il envoie à la fonte. Enfin, véritablement, c'est la fonte. On dépece les couronnes, on les envoie à la fonte pour avoir de l'argent, ou disons de l'or. Et il en envoie une dizaine, dont une grande couronne impériale. La grande couronne impériale de Saint-Denis, c'est la couronne de Charles le Chauve, qui était évidemment archaïque, qui ne servait à rien et que on a balancé. Vous savez, les Français de l'ancienne France n'avaient pas le culte, n'avaient pas toujours le culte de l'ancien. Et jusqu'au XIXe siècle, enfin même, on peut dire que jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, on taillait les vêtements du sacre pour en faire des objets, des vêtements liturgiques. On n'avait pas, comment dirais-je, on pouvait abandonner des insignes anciens. Voilà. Il y en avait, disons, 4 ou 5 qui étaient habituels, mais il y avait des insignes très anciens qu'on a laissé complètement démolir, qu'on a perdu. Voilà.
Voilà, on voit très bien sur le vitrail de Notre-Dame de la Belle-Verrière que c'est une couronne très lourde. Et il me semble que vous connaissez à peu près le poids.
Ah ben, celle-là, je la connais. Le poids de cette couronne, je ne le connais pas. Mais la couronne faite par Philippe Auguste pour le roi de France et qui a été démolie par la Ligue à Paris, qui avait besoin d'argent. La Ligue, c'est donc c'est les guerres de religion. La couronne du roi avec sa tiare, elle pesait 4 kilos. C'est-à-dire, au fond, un record même international. Il n'y a pas de couronne à l'heure actuelle en Europe qui soit aussi lourde. Et la couronne de la reine, qui était la petite sœur, qui était d'ailleurs à peu près tout à fait de centiare, mais qui avait, comment dirais-je, le même dessin, le même nombre de pierres, etc. Et bien, cette couronne a été, comment dirais-je, envoyée à la fonte par la Convention nationale.
Parlons justement des pierres précieuses que l'on voit sur cette couronne.
Oui, les pierres précieuses sont d'une couleur très limitée. On trouve du bleu, du vert, et ça a été du rouge. Mais le rouge, on ne le voit plus très bien à l'heure actuelle, mais ce fut du rouge. Et ces trois couleurs, en théorie, vous savez, dès qu'on tombe sur des systèmes avec ternaire, comme les fleurs de lys ou d'autres choses, il y a des raisons à tout ça. En tout cas, on peut dire que vers 1150, il y a un seul et unique homme qui a parlé des trois couleurs représentant les trois vertus théologales, en disant que le vert, le bleu et le rouge représentaient les trois vertus théologales. C'est Honorius d'Hydotin, Augustodunensis, qui était d'ailleurs un moine britannique qui vivait, paraît-il, à Ratisbonne. Il est mort vers 1150. C'est le seul. Mais il ne faut pas croire que les gens du Moyen Âge étaient cloisonnés. Ils se parlaient. Les gens à un certain niveau se connaissaient tous très bien. Je pense d'ailleurs que Auguste, cet Honorius, devait connaître une sainte très importante sur le plan symbolique. C'était Sainte Hildegarde de Bingen, dont on a beaucoup parlé parce qu'elle a même des recettes culinaires et des soi-disant des médicaments pour soigner les
Elle
gens.
soigne aussi avec des pierres précieuses,
Voilà,
entre autres.
exactement. Et donc tout ce monde se connaissait. Je suis persuadé qu'il devait connaître aussi Suger, et qui était d'ailleurs un grand maître de la symbolique pour Saint-Denis. Donc nous avons une couronne impériale qui n'existe plus et qui prouve quand même que c'est la couronne de Charles le Chauve. Et donc à ce moment-là, c'est très important pour justement coiffer la Sainte Vierge.
Et vous placez justement le vitrail dans la première moitié du XIIe siècle où nous avons un évêque très important à Chartres, Geoffroy de Lèves.
Geoffroy de Lèves, oui. Alors comme ça, Geoffroy de Lèves est à côté de Chartres, c'est un village qui n'est pas loin. Geoffroy de Lèves, moi je me suis, je, vous savez, je ne connaissais pas bien l'histoire des évêques de Chartres. Bon, on connaît beaucoup de personnes connaissent un peu mieux Saint-Yves de Chartres, qui était un prédécesseur, mais Geoffroy de Lèves, c'est un monsieur qui était connu, très très connu. J'ai eu la joie de pouvoir lire au bon moment, ça c'est la Providence, et j'y crois beaucoup à la Providence, un article fait par un Anglais dans un volume sur Saint-Denis qui a été fait justement dans le cadre, si j'ai bonne mémoire, de l'Institut historique allemand de Paris. Et donc, cet Anglais a donné une bonne vie de Geoffroy de Lèves, et on s'aperçoit que c'était quelqu'un qui a été qui côtoyait Suger, qui a été plusieurs fois à Saint-Denis, et la première fois qu'il y est allé, on en est certain, c'est en 137.
On va écouter maintenant une petite pause musicale. Nous écouterons Sic ut oculi intruit, prévu dans l'ordre du sacre et du couronnement des rois, mis par écrit du règne de Louis VIII. Voilà, avec Monsieur Hervé Pinotto, historien héraldiste, dans notre studio de Radio Grand Ciel, et nous parlions de la couronne impériale que l'on voit très bien sur la tête de la Vierge dans le vitrail Notre-Dame de la Belle-Verrière dans la cathédrale de Chartres. Et nous Tizian ou Monsieur Pinotto nous rappelait l'importance qu'avait l'évêque Geoffroy de Lèves dans la première partie du XIIe siècle. Pour résumer ce que vous avez dit, si vous permettez, Monsieur Pinotto, vous pensez que c'est Geoffroy de Lèves qui côtoyait Suger, qui était jouait un rôle très important dans le royaume de France et peut-être le concepteur de ce magnifique vitrail, donc que l'on peut, selon vous, placé dans la première moitié du XIIe siècle. Maintenant, nous allons peut-être passer à un autre vitrail très important, très connu de tous les visiteurs de la cathédrale, des pèlerins. C'est le vitrail qui se trouve dans l'axe de la cathédrale de Chartres, dans le déambulatoire, le vitrail de Charlemagne.
Oui. Le vitrail de Charlemagne est un vitrail qui a été d'ailleurs très bien restauré qu'il faut regarder. Il faut regarder ça avec une certaine piété là aussi, parce que finalement Charlemagne, surtout à partir du XIIe siècle, a eu un grand rôle dans l'imaginaire français. À la fin XIe, XIIe siècle et surtout XIIe siècle, un grand historien allemand qui s'est occupé de l'histoire de France, Karl Ferdinand Werner, qui est mort il y a peu de temps, disait qu'au début, les Capétiens n'avaient nullement envie de parler de Charlemagne, dont ils descendaient par les femmes, bien sûr, comme à peu près tout le monde au plus haut niveau de l'État franc. Mais on n'avait pas tellement intérêt à se brancher sur les Carolingiens et surtout sur Charlemagne, alors que c'était une dynastie qui était déchue et qu'on avait remplacée. Par contre, à partir du XIIe siècle, les Allemands se sont mis à magnifier Charlemagne. Nous aussi, nous l'avons magnifié. Suger a fait un faux diplôme, d'ailleurs, pour magnifier Saint-Denis en disant que c'était Charlemagne qui l'avait signé. Et c'est un faux retentissant, puisque Saint-Denis devenait littéralement la capitale du royaume de France. On a commencé donc avec les chansons de geste, en particulier la chanson de Roland, qui est évidemment l'essentiel est d'avant 1100, oui, puisqu'on prétend même qu'elle a été, on l'a été récitée à la bataille d'Hastings en 1166, mais en réalité, donc ça explose en France, Charlemagne, parce qu'il est tout à fait normal qu'à la limite, un roi comme Philippe Auguste ait demandé qu'il y ait quelque chose sur Charlemagne dans la cathédrale de Chartres. Voilà.
Parce que Charlemagne a été canonisé sur l'instigation de Frédéric II de Barbarousse en 1165. Et pourquoi est-ce qu'on aurait attendu seulement le début du XIIIe siècle pour...
C'est un antipape. Alors il faut quand même faire
attention.
C'est
un antipape, mais l'Église, après, n'a jamais osé revenir
oui,
sur...
Oui, c'est-à-dire qu'il y a... on l'a considéré comme ça en France, mais beaucoup plus, c'est surtout à partir de Charles V, parce que c'était au fond quasiment le saint patron de Charles V, et qu'il a fait fabriquer, le sceptre qui existe, le haut du sceptre existe encore, le haut du sceptre royal est toujours avec une statuette de Charlemagne qui trône, n'est-ce pas ? Et ça a été un rescapé des horreurs de la Convention nationale. Bon, donc Charlemagne, avec sa légende, explose avec un roi qui se prend aussi pour Charlemagne, qui aimerait bien, comment dirais-je, tenir le rôle de Charlemagne, qui est Philippe Auguste. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on lui donne ce surnom-là. Il y a tout un ensemble de choses qui prouvent que ça l'intéresse. Et la question c'est pas un vitrail, justement, comme on l'a dit, c'est vers 1200, vers 1230, mais il est vers sans doute de 1205 par là. Et ce vitrail-là expose deux faits légendaires, le passage de Charlemagne à Constantinople et puis Charlemagne allant à Saint-Jacques de Compostelle.
Alors, ce qui est intéressant sur le vitrail, c'est la pièce héraldique, le bouclier que porte Charlemagne à la bataille.
Bon, le bouclier, vous savez, c'est un bouclier qui est rouge. Le rouge, c'est le signe de la guerre. C'est la rose rouge en particulier est la fleur de la guerre, tandis que le lys blanc est la fleur de la paix. Et c'est une dialectique qui vient des Carolingiens et d'un poète. Mais en réalité, il faut pas. C'est un poème. C'est un bouclier avec des renforts. Un point, c'est tout.
Mais c'est le meuble à l'intérieur du bouclier qui est intéressant. C'est un raie d'escarboucle. Expliquez-nous ce que c'est qu'un raie d'escarboucle.
C'est un renfort de l'écu. C'est un renfort de l'écu. Vous savez, les écus sont comment dirais-je, fait avec du bois, mais avec du cuir. Et on est obligé quand même sur certaines grandes surfaces, surtout dans l'écu normand qui est assez long et en forme de toupie, hein, de longue toupie. Eh bien, c'est un écu qui est renforcé avec une croix, un sautoir et quelquefois même des chevrons pour le bas. Et ça a donné d'ailleurs en héraldique un tas de comment dirais-je, de figures qui ont persisté jusqu'à nos jours. Et ces renforts sont avec des fleurs de lys, comment dirais-je, des décorations, quoi, pour que ça soit plus joli. Alors, ce ne sont pas des armoiries, mais c'est pré-héraldique.
Ce ne sont pas non plus des flèches que l'on pourrait croire voir. Absolument pas.
Non, c'est rien du tout. C'est pas du tout.
Alors, on voit au bas du vitrail un marchand de draps qui présente une pièce de fourrure.
Oui.
C'est le menu vert. C'était un émail dans l'héraldique,
mais c'est une fourrure qui est faite de deux teintes, le blanc et le bleu. Voilà. On en trouve un petit animal qui a justement ces deux teintes et on les alterne et ça fait du vert. V-A-I-R. Bon. Et donc, à ce moment, et qui est d'ailleurs, encore, il y a un souvenir de ça dans certains costumes des conseillers à la cour d'appel, etc.
Aujourd'hui encore, voilà. Et puis, nous voulions parler du voile de la Vierge, mais le temps passe tellement vite, il nous reste à peine 2-3 minutes. On voit que Charlemagne reçoit dans ce vitrail des reliques précieuses.
Oui, c'est vrai. Les reliques ont été sans aucun doute données. Des reliques viennent de Byzance, ont été données à Charlemagne, qui les a entreposées à Aix-la-Chapelle. Et ces reliques le roi Charles le Chauve, qui est devenu empereur quelques années sur la fin de sa vie, s'en est emparé, tout à fait légitimement d'ailleurs. Alors il les a distribuées à travers la France. Voilà.
Et il a donc donné le voile de la Vierge qui se trouve parmi ces reliques.
Alors, par le voile de la Vierge, justement, a été donné par Charles le Chauve à la cathédrale de Chartres, Notre-Dame de Chartres. Et ce voile, en 911, a été déjà son premier miracle. Il a mis en fuite, littéralement, les vilains normands. En 911.
Voilà, et après on l'a mis dans une châsse magnifique qui malheureusement a été pillée à la Révolution. Elle était couverte de demi-pierres précieuses et de perles, comme on nous dit. Donc le voile est pour ainsi dire authentifié aussi à travers ce vitrail qui nous rappelle bien que ces insignes reliques ont été à Charlemagne par sans doute pas l'empereur Constantin, à qui on compare Charlemagne dans le vitrail, mais plutôt par Irène.
Mais c'est plutôt l'impératrice qui était du temps de Charlemagne. Voilà. Mais voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire à la matière, mais il faudrait que les savants se mettent un tout petit peu au travail pour donner la date du tissu, qui est extraordinaire, qui n'a jamais été fait en Europe.
C'est pour ça qu'il faudrait que les héraldistes, comme vous, se penchent sur les représentations et aussi le jeu des couleurs dans les vitraux pour pouvoir nous aider à mieux dater ces vitraux qui sont sans doute très anciens, plus anciens encore qu'on ne le croit. Merci beaucoup, Monsieur Hervé Pinoteau. Vous nous avez fait un magnifique exposé sur l'importance des insignes royaux dans les vitraux de la cathédrale de Chartres. Merci beaucoup. Au revoir, chers auditeurs de Radio Grand Ciel.